France Musique. Karl Maria von Weber, c'était le rondo final de son premier concerto pour clarinette avec Jean-Luc Fautano, l'Orchestre Philharmonique de Liège, dirigé par Louis Langrée, le chef d'ailleurs tout récemment nommé directeur de l'Opéra Comique, et qui dirige demain soir l'Orchestre du Conservatoire de Paris, c'est à la Philharmonie de Paris, avec Christian Tetzlaff au piano, au programme Le Concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg, ainsi que Webern et Brahms. Tout juste 7h40, c'est l'heure de faire le tour de l'actualité musicale.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et d'abord, la mission sur les orchestres permanents français qui a été remise hier à Roselyne Bachelot. L'étude menée par Anne Pourcin et Jérôme Thiébaud fait un certain nombre de préconisations, entre autres clarifier l'environnement juridique des orchestres, développer la diversification et l'implication du public, ou encore transformer et compléter le réseau des salles de concert pour en faire des outils adaptés aux pratiques culturelles du XXIe siècle. Un nouveau compositeur en résidence au Festival international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, c'est Alexandre Marqueas. Il prend la suite de la résidence de la compositrice Camille Pépin pour les deux prochaines années. Ses œuvres seront programmées lors du festival et une pièce symphonique est commandée. Elle sera créée par les finalistes de ce concours de Besançon de chefs d'orchestre en 2023. Alexandre Marqueas qui se rendra dès la fin du mois dans les conservatoires du Grand Besançon et du Grand Belfort pour des rencontres avec les classes de piano, de danse et de composition. Dans l'actualité aussi, le coup de gueule de Cyril Dubois. Le ténor français claque la porte du Staatsoper de Berlin. Il devait s'y produire cette semaine dans le cadre du concert anniversaire des 20 ans du concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm. Dans un texte que le site Forum Opéra a publié, Cyril Dubois dénonce la politique de tests PCR disproportionnée selon lui, mise en place par l'Opéra berlinois. Deux tests PCR pour 3 jours sur place. Il met en avant l'inquiétude des phoniatres concernant ces gestes invasifs pour la sphère ORL des chanteurs, mettant en danger, selon lui, jusqu'à la pérennité de leur instrument, à savoir leur voix. Dans la presse ce matin, La Croix se penche, elle, sur Eugène Onéguine, l'opéra de Tchaïkovski, dans la nouvelle production de Stéphane Braunschweig, à partir de demain à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Le metteur en scène et directeur du Théâtre de l'Odéon raconte à Emmanuel Giuliani son émerveillement pour cet ouvrage, où, dit-il, le compositeur s'est resserré sur les personnages. La musique est poignante d'un bout à l'autre pour Stéphane Braunschweig, d'une sensibilité et d'une finesse constante. Les mélodies de Tchaïkovski, ajoute-t-il, vous incitent à lâcher prise et à vous laisser gagner par leur naturel, leur simplicité. Eugène Onéguine, à partir de demain à Paris au Théâtre des Champs-Élysées jusqu'au 19 novembre, est diffusé. Cadeau de Noël le 25 décembre sur France Musique. Enfin, à Compiègne, au Théâtre Impérial, le festival En Voix, dédié à l'art lyrique et au chant choral, ouvre aujourd'hui. Au programme 24 spectacles dans 45 communes des Hauts-de-France, c'est jusqu'au 17 décembre. Et ça commence ce soir et demain soir dans ce magnifique Théâtre Impérial de Compiègne avec La Dame Blanche de Boieldieu dans une mise en scène de Louise Vigneault, l'Orchestre des Siècles dirigé par Nicolas Simon. Voici l'air sans doute le plus célèbre de cet opéra comique. Ah, quel plaisir d'être soldat, se réjouit ici Juan Diego Flores.
Ah, quel plaisir d'être soldat, ah, quel plaisir d'être soldat. Oh, ser par sa vaillance, y sobrasse, sobrasse l'état, y que manquement au silence, de l'amour au combat. Y que manquement au silence, de l'amour au combat. Ah, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat. Ah, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat. Ah, écoutez ce chant de victoire de la gaieté, celle-ci notre général. Ah, 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 quel plaisir d'être soldat, quel plaisir d'être soldat. Oh, cher par sa baillos, il se passe son facilita. Igmoguez-moi ton silence, de l'amour au combat. Igmoguez-moi ton silence, de l'amour au combat. Ah, quel plaisir, ah, quel plaisir, ah, quel plaisir d'être soldat. Ah, quel plaisir, ah, quel plaisir, ah, quel plaisir d'être soldat. Oh, la paix, la paix, la paix, brille son courage, le ramène dans son village, pour lui faire spectacle nouveau. C'est un père à l'ami qui le prête. Chacun se dit, chacun se dit, j'ai pris l'ardiamant. On l'adore, on l'embrasse, et voilà, c'est l'ardiamant. Le vieillard même, quand il passe, porte la main à son chapeau, porte la main à son chapeau, à la belle état, à la belle état, à la belle état, c'est celui des soldats. On l'appelle, la paix, la paix, brille de son courage, le ramène dans son village, pour lui faire spectacle nouveau. C'est un père, un ami, qui le presse et l'embrasse, chacun se dit, chacun se dit, c'est lui, c'est leur diamant. Et sa mère est heureuse, et sa mère est heureuse, te voilà, te voilà, te voilà. Le voilà, c'est mon fils, mais j'avais une amoureuse, où donc est-elle? Mais j'avais une amoureuse, où donc est-elle? J'entends, je comprends, où j'entends, je comprends. Quel plaisir d'être soldat, ah, quel plaisir, oh. Quel plaisir, ah, quel plaisir d'être soldat, ah, quel plaisir d'être soldat, ah, quel plaisir d'être soldat, ah,
se réjouit sans terre de la Dame Blanche de Boieldieu avec Juan Diego Flores, ici l'orchestre du théâtre communal de Bologne dirigé par Roberto Abbado, et la Dame Blanche dans cette version de Louise Vignaud, c'est ce soir et demain soir au théâtre impérial de Compiègne. Il est 7h48.
Here we stand and we argue, what are we thinking of? Let's not make with the baby. Let's make love. You just love my embracer, 'cause they'll fit like a glove. We could get down to kisses, maybe. Kiss me, baby. Let's make love. Let's make love. Let's make love.
Vous prendrez bien un peu de Yves Montand. Il vous proposait de faire l'amour dans Le Milliardaire avec Marilyn Monroe en 1960, film de George Cukor. Yves Montand qui s'est éteint il y a 30 ans. Aujourd'hui, on poursuit sur France Musique notre hommage à l'acteur et chanteur. Reportage, on sera à Marseille vendredi avec Sophie Anastasio, une exposition consacrée à Montand à Marseille. Et puis Martin Péné, lui, poursuit son émission consacrée au début d'Yves Montand. Tour de chant tous les dimanches à 12h30. Deuxième volet dimanche prochain. Il est 8h-10. Comme tous les mardis, c'est la chronique d'Aliette Delalleux, une œuvre, une compositrice. Bonjour Aliette.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Un hommage aujourd'hui à Johanna Brusovitch. La compositrice s'est éteinte la semaine dernière, elle avait 78 ans, connue notamment pour son travail pour le cinéma et en particulier avec la réalisatrice Agnès Varda. Ce matin, vous nous racontez leur rencontre.
Oui, ça se passe en 1985. Agnès Varda vient de terminer son film « Sans toit ni loi » qui raconte la déambulation imaginaire d'une sans-abri retrouvée morte au pied de deux cyprès. La réalisatrice cherche alors sa musique qui pourrait accompagner les images de son œuvre. Dans une interview, elle raconte « Je voulais, pour ce film, avec une fille errante, rude, violente, qui déteste tout et tout le monde, je voulais une femme compositrice. » Elle se rend alors chez un disquaire pour demander de l'aide. On lui propose plusieurs disques, dont un enregistrement du Varsovia String Quartet avec le premier quatuor à cordes de Johanna Brusovitch. Grande mélomane, Agnès Varda trouve l'œuvre un peu difficile mais accroche avec le deuxième mouvement de ce quatuor qu'on appelle La Vita. Elle appelle directement la compositrice et lui fait une proposition. Johanna Brusovitch raconte cette scène dans une interview donnée à la Cinéthèque.
Agnès m'a dit, ben voilà, votre quatuor m'intéresse beaucoup pour les films que je suis en train de terminer. Est-ce que vous serez d'accord que je puisse prendre des fragments, mais il faudrait aussi écrire 2-3 fragments qui seront dans le même style, mais plus adéquat pour certaines scènes. J'étais évidemment extrêmement émue et très heureuse qu'elle ait choisi mon quatuor et j'ai dit bon, avec plaisir.
Et voilà comment une musique contemporaine, signée par une compositrice à l'époque peu connue, s'est retrouvée au cœur du film d'Agnès Varda, Sans toit ni loi, film sélectionné à la Mostra de Venise cette même année 1985.
Et dans son interview, Johanna Brusovitch raconte à Aliette que la réalisatrice lui a demandé des fragments supplémentaires pour ce film. Comment a-t-elle procédé ?
Elle a tout simplement fait des variations autour de ce premier quatuor qu'elle a composé. Et à ce sujet, elle raconte aussi une anecdote intéressante qui en dit beaucoup sur Agnès Varda, sa personnalité, et puis sur la musique de film en général. Après avoir composé les variations autour de son premier quatuor, elle appelle donc des instrumentistes pour reconstituer un quatuor et se retrouve en studio à Bruxelles pour enregistrer les musiques manquantes, ces fameux fragments. La réalisatrice écoute, attentive, de l'autre côté de la vitre, en régie, et elle lui fait tout à coup de grands signes. Alors Johanna Brusovitch lui demande ce qui se passe et Agnès Varda répond « C'est trop beau ». C'est trop fort, ça va casser mon image, tu dois changer ça. La compositrice retourne en studio, dit exactement ça aux instrumentistes et ils réenregistrent, ils s'exécutent, offrent une autre version qui sera prise pour le film. Et voilà ce que ça donne, un extrait du générique du film Sans toit ni loi, bande originale signée par la compositrice d'origine polonaise Johanna Brusovitch qui nous a quittés mercredi dernier.
Aliette Delalleux, une œuvre, une compositrice, c'est tous les mardis à 7h50 sur France Musique et c'est quand vous voulez, en podcast, sur l'application Radio France. À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
un arpège du compositeur allemand Johann Caspar Ferdinand Fischer, interprété sur l'un de ses merveilleux instruments par Skip Sampé, le claveciniste et chef américain, désormais français, naturalisé. Il est à l'affiche du concert de 20h ce soir sur France Musique avec son ensemble Capriccio Stravagante. Il interprète la Pellegrina, cette célèbre pièce lyrique italienne du 16e siècle, dont la musique fut composée par 4 auteurs différents. Un concert donné au Festival de musique ancienne d'Utrecht et que Clément Rochefort vous propose donc ce soir à 20h sur France Musique. Il est 7h55.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Quel mystère, c'est normal, c'est la voix mystère, c'est le grand jeu de France Musique tous les matins. A gagné ce matin le disque des cantates de Buxtehude par l'ensemble La Rêveuse, paru l'an dernier. Il faut donc trouver la voix mystère qui parle. Vous répondez sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin, dans l'onglet Contactez-nous, sans oublier vos coordonnées pour recevoir le disque qui parle, qui est la voix mystère. Écoutez bien.
Un jour, mon tonton est venu chez moi. Il m'a apporté une clarinette en me disant, écoute, je sais que tu aimes la musique, voilà. Et moi, la clarinette, ça ne me disait rien du tout. Mais enfin, c'était un instrument. J'ai quand même, dès que j'ai ouvert la boîte de clarinette, que j'ai vu cet instrument, que je l'ai monté, je me suis intéressé. Je me suis dit, comment ça marche, ça? Comment c'est fait? L'anche. Comment on joue de ça? Et finalement, c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à tous les instruments de musique.
Alors, qui est ce... Qu'est-ce que je peux donner comme indice? Cet humoriste, ce grand humoriste qui était au micro de France Musique dans les années 70. Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le disque Buxtehude de La Rêveuse. La réponse, si vous n'avez pas trouvé, je vous la donne dans une heure. Hier, nous écoutions la voix de Jean Marais. La musique d'Antoine Boesset, bien loin, profane de ces lieux. C'était Correspondance, dirigée par Sébastien Dossé, le chef et son ensemble, en résidence au Théâtre de Caen. C'est là qu'il présente, à partir de demain, Cupid and Death, un masque anglais du XVIIe siècle, redécouvert sur des musiques de Matthew Locke et Christopher Gibbons, et jusqu'à samedi à Caen. Et puis ce sera la semaine prochaine à Paris, à l'Athénée. À tout de suite.
Marseille, nous voilà.
C'est la soirée de jazz, vendredi au Conservatoire de Marseille, en direct et en public, sur France Musique, de 18h à 22h30. Ce sera les 200 ans du Conservatoire, mais eux, qui sont avec nous, ils ne les ont même pas tous ensemble.
Théo Crocker, Anne Passeo, Raphaël Imbert, Éric Truffat, Édouard Perrault, des concerts en direct et en public, sur France Musique et francemusique.fr.
On va se régaler.
En partenariat avec la Provence.
Les études montrent que la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel? 6 mois après votre dernière injection, si vous avez 65 ans et plus, vous avez une maladie grave, vous êtes un professionnel de santé éligible. Vous êtes aussi concerné si vous êtes dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. Vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen? Vous pouvez faire votre dose de rappel dès 4 semaines après votre injection. Enfin, si vous êtes immunodéprimé, vous pouvez faire votre rappel à partir de 3 mois après votre dernière injection sur avis médical. N'attendez pas. Faites votre dose de rappel chez un professionnel de santé près de chez vous ou prenez rendez-vous sur www.sante.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Mardi 9 novembre 2021, sur le sud de la Provence, des passages nuageux seront de plus en plus nombreux tout au long de la journée. Sur le reste du pays, ce sera plutôt ensoleillé et calme. Ça reste froid, bien sûr, avec 3 à 10 degrés sur la Bretagne et les côtes de la Manche. 0 à 4 ce matin sur le reste des régions françaises. Des maximales 10 à 15 degrés sur les régions proches de la Manche et de l'océan à nouveau. 14 à 19 près de la Méditerranée, localement 20 à 21. Ailleurs, elles ne dépasseront pas 6 à 11 degrés. Merci d'être avec nous sur France Musique. Il est 8h. Un nouveau journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Quelques heures avant l'intervention télévisée du chef de l'État qui évoquera notamment ce soir la crise sanitaire et le rebond épidémique, le Sénat a finalement validé une rallonge d'1,7 milliard d'euros pour l'assurance maladie dans le cadre du budget de la Sécu pour 2022. Des moyens supplémentaires seront donc alloués à l'hôpital public. Le ministre de la Santé a d'ailleurs promis qu'aucune économie ne serait faite sur le dos de ce secteur qui depuis des mois maintenant a bien du mal à recruter du personnel et notamment des infirmières et des infirmiers en cause de mauvaises conditions de travail et un manque de reconnaissance. En témoigne ce reportage de Valentin Bertrand sur cette crise des vocations. Elle inquiète les professionnels qui participent depuis hier au Salon des infirmiers. Il vient d'ouvrir ses portes à Paris au Parc des Expositions.
Le CHU recrute. Le slogan se retrouve sur de nombreux stands. Alors les candidats infirmiers et les étudiants sont choyés. Joanne, à 23 ans, repart avec un sac plein de brochures.
Ils essayent de recruter déjà des 3e années parce qu'il manque beaucoup d'infirmières, donc on est beaucoup demandé.
Océane est aussi en dernière année. En revanche, pour elle, la décision est prise. Elle ira s'installer en Suisse.
Il y a moins de patients à charge, donc on peut mieux s'en occuper. Le salaire, il est plus important. Et même si les horaires ils sont un peu plus longs, moi, je vois pas pourquoi je resterais sur Paris.
Des difficultés pour recruter et conserver les jeunes que Camille, infirmière au CHU de Bordeaux, constate chaque jour. Dans son service de neurologie épilepsie, un tiers des lits sont fermés depuis 2 ans, faute d'infirmiers.
Les collègues partent, ils ne restent pas. C'est pas l'idée qu'ils s'en faisaient. C'est pas attractif. Pas attractif au niveau salaire. Comme on est en manque de personnel, en plus, du coup, il faut faire des heures supplémentaires. On se sent obligé à revenir sur nos RTT, sur nos congés. Donc c'est dur, on a une pression pour venir travailler.
Pression que déplore Luc Durand, le directeur des soins de l'hôpital, qui doit répondre à des besoins croissants.
C'est un besoin urgent et aujourd'hui la qualité des soins pourrait être fragilisée par cette situation. Au niveau des urgences, c'est tout simplement un encombrement du service d'urgence, c'est-à-dire qu'on a des secteurs de soins qui sont saturés. Ces patients attendent pour être hospitalisés dans des services qui n'ont pas de lit. Donc ces patients restent aux urgences, parfois plusieurs jours. Quand ils arrivent dans les services de soins, ils sont pris en charge, certes, mais il faut faire sortir les autres patients. Aujourd'hui, on est vraiment sur la corde raide, on est sur une brèche en termes de qualité des soins.
Le directeur des soins recherche une quarantaine d'infirmiers, principalement pour le travail de nuit, la gériatrie et le bloc opératoire.
Un long débat à la télévision et au bout du compte, 5 candidats qui sont à peu près d'accord sur tout. Difficile dans ces conditions de dire qui aura les faveurs des militants LR le 4 décembre prochain quand il s'agira de choisir celui ou celle qui portera les couleurs de la droite et du centre pour la présidentielle de 2022. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin iront d'ailleurs tous ensemble aujourd'hui se recueillir à Colombey-les-Deux-Églises pour le 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. L'Église catholique française vendra des biens immobiliers pour indemniser les victimes de violences sexuelles commises ces 70 dernières années par des prêtres et des religieux. Les évêques ont également promis hier la mise en place d'une instance nationale indépendante pour la reconnaissance et la réparation. Elle sera présidée par Marie de Rhin de Vaucresson, l'ancienne défenseure des enfants.
France Musique 8h04 pour les États-Unis. Le doute n'est plus permis. Les militaires chinois s'entraînent depuis des mois à combattre les navires de guerre américains. Olivier Denré.
Des cibles grandeur nature ont en effet été repérées ces dernières semaines par des satellites d'observation dans le nord-ouest du pays. Des répliques de vaisseaux ont été construites en plein désert sur lesquels l'armée de Pékin teste ses derniers missiles. Eric Biegala.
Si l'on se demande ce que l'armée populaire de Chine imagine être son ennemi principal, son ennemi essentiel, la réponse se trouve aujourd'hui dessinée dans le désert du Taklamakan, au nord-ouest de la Chine. Et en deux mots, l'ennemi, c'est la marine de guerre américaine. Les images satellites de la société américaine Maxar, diffusées depuis dimanche et analysées par le Naval Institute américain, montrent en effet clairement une réplique à échelle 1 d'un porte-avions de classe Gerald Ford, la dernière génération des porte-avions américains. Également visibles plusieurs destroyers, très semblables aux destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke et comprenant des structures de ponts similaires, les tourelles, les canons, etc. Au moins 5 de ces bateaux cibles sont visibles sur les images de Maxar et ils sont positionnés dans un périmètre qui ressemble clairement à un immense polygone de tir, si l'on en juge par les centaines de cratères et autres points d'impact laissés au sol. Ce n'est pas la première fois que l'armée chinoise utilise des répliques de porte-avions américains pour s'entraîner au tir, mais ces derniers modèles de cibles sont aussi montés sur rails et donc mobiles. Une cible mobile de la taille d'un porte-avions, c'est sans doute ce qu'il fallait à Pékin pour tester son Dongfeng 21, possible premier missile anti-navire balistique, également déjà surnommé le tueur de porte-avions.
La Chine qui poursuit au-dessus de nos têtes son aventure spatiale, aventure marquée hier par la sortie dans l'espace de l'astronaute Wang Yaping, la première chinoise à quitter pendant plus de 6 heures la station du géant asiatique, actuellement en construction dans son pays. Cette scientifique est aussi connue que Thomas Pesquet en France. Thomas Pesquet qui vient d'amerrir au large de la Floride avec 3 autres coéquipiers. Retour sur Terre réussi donc pour les 4 astronautes qui viennent de passer 6 mois à bord de l'ISS, la station spatiale internationale, lancée et pilotée par la NASA. 8h passées de 6 minutes sur France Musique. Captain Urbain aux commandes jusqu'à 9h. À suivre, invité chronique. Et à 8h10, le reportage de Clément Buzalka, avec au programme ce matin du théâtre, du jazz et du hip-hop. Un entrelac que l'on doit au Quatuor Debussy.
Et vous, Olivier Denré, vous retournez dans votre capsule en orbite et vous revenez demain à 7h. Bonne journée.
Bonne journée, à demain.
Musique Matin, 2e heure. En plus d'un quart de siècle, Anne Gastinel s'est imposée comme l'une des grandes, plus grandes interprètes du violoncelle. Alors qu'elle vient de fêter ses 50 ans, la musicienne joue et chante avec son archet Frédéric Chopin sur un tout nouveau disque aux côtés d'une amie de 20 ans, Claire Désert, au piano. Rencontre avec une artiste discrète, intègre et engagée dans l'enseignement au Conservatoire supérieur de Lyon. Anne Gastinel sera notre invitée à 8h30. Et puis c'est un voyage dans le temps que nous propose tout à l'heure Max Dosolm avec une célèbre formule musicale, la basse d'Alberti. Si elle a été à la mode au XVIIIe siècle, utilisée entre autres par Mozart, on la retrouve jusque chez Prokofiev et même Phil Glass, maxi classique. C'est dans 12 minutes.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
La barbe. À Malte, le principal syndicat de police du pays encourage les agents à se laisser pousser la barbe, à se teindre les cheveux et apporter du vernis à ongles. Et oui, en cause, une nouvelle directive de la police maltaise. Elle ordonne aux agents masculins de se raser, sans exception, sous peine de sanctions disciplinaires. Dans un communiqué, le syndicat de police maltais assure que l'ordre interdisant aux policiers toute barbe, barbichette et autres boucs n'est pas conforme à la loi. Et donc, le syndicat appelle ses adhérents à utiliser un vernis à ongles de n'importe quelle couleur qui puisse être utilisé. Les cheveux peuvent être teints sauf avec des couleurs voyantes, mais les agents ne doivent pas porter leur casquette de police. Voici non pas le barbier de La Valette, mais celui de Séville.
Presente il dottor Bartolo, eccetera, 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 e sentiamo!
E andate al diavolo! State a segnare!
Cosa fa, signor mio caro? Cosa fa, signor mio caro?
Sì, vado, torso, mare, mi alloggio qui, mi stanco, in alloggio qui, posso stare!
Vuol restare?
Restare sicuro!
Oh, oh, sto fuori, oh, bastone, e sto fuori, un po' bastone, ti farà di qua sloggiare, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, un po' bastone, ti farà di qua sloggiare.
Dunque lei, le voglio in battaglia, ben, la devo dare, bella cosa, è una battaglia bella, voglio qui mostrare. Osservate, questo è il mosso, l'inimico voi sarete. Ah, ah! E gli amici,
gli amici. Stanni qua, attenzione!
Ferma, ferma!
Che cos'è?
Ah. Vuoi vedere?
Sì, e se fosse una ricetta? Ma un biglietto.
È mio dovere, è mio dovere, perdonò.
Grazie,
un corno! Ah, quel quello, quel quello per di niente, ma quel quello per di niente, a chi di qua, a chi di qua, a chi di qua, sta già!
Ma
quel foglio che chiedete, per azzardo m'è cascato, e la lista del bucato.
Fa scritta, presto, 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 presto. Che vedo?
Il Baviere.
Il Desampaglio. E la lista.
Manda gente.
Son distrutto.
Bravo, bravo il Mammalucco.
Ma su fuori, ma su fuori, ma su fuori, ma su
fuori. Nel sacco entrato in già.
Ma su fuori, 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 ma su fuori.
Bravo, bravo, bravo il Mammalucco.
Un petit extrait de l'acte 1 du Barbier de Séville de Rossini avec les voix mêlées de Ruggero Raimondi, Kathleen Battle, quelques autres. L'orchestre de chambre d'Europe dirigé par Claudio Abbado, un enregistrement qui a 30 ans déjà. Il est 8h12.
Musique Matin, le reportage.
Un reportage qui nous emmène à la rencontre d'un quatuor à cordes unique en France avec sa formation on ne peut plus classique, le quatuor Debussy, né il y a 30 ans à Lyon, aurait pu se contenter de mener une carrière uniquement classique donc. Mais ces quatre musiciens aiment aussi se confronter au jazz, au théâtre musical, parfois même au hip-hop. En ce moment, ils sont à la MC 93 de Bobigny, c'est dans le cadre du Festival d'automne, pour Antigone à Molenbeek, un spectacle signé Guy Cassir sur la musique de Shostakovich. C'est un reportage de Clément Buzalka.
Quand le metteur en scène belge Guy Cassirs a monté son spectacle Antigone à Molenbeek et Tirésias, la présence sur scène de la musique était pour lui inéluctable. Mais sous quelle forme? Comment accompagner ces deux monologues? Dans cette pièce, Guy Cassirs a opté pour la 15e symphonie de Shostakovich par le quatuor Debussy, et ce pour une raison particulière, leur présence scénique plutôt unique.
Je ne vois pas une autre quatuor qui peut pas seulement jouer le 15e sans papier, mais aussi jouer, créer une situation chaque fois où l'actrice doit répondre dans une manière spécifique.
Et c'est là toute la singularité du quatuor Debussy. Dans cette société actuelle ultra visuelle, le concert doit pour eux être aussi beau pour les oreilles que pour les yeux. Tout un travail pour le premier violon du groupe, Christophe Colette.
Quand on veut faire ce genre de rencontre, c'est bien d'imaginer qu'il n'y a pas d'un côté les musiciens et de l'autre côté la partie acteur ou danseur, suivant dans les spectacles dans lesquels on est, mais que tout ça forme un tout. Et qu'il faut que les musiciens qui ont envie de se mettre sur scène jouent le jeu à fond. Donc ça a beaucoup d'implications. Ça a l'implication, bien entendu, de connaître le texte, de se pénétrer du texte, parce que ça donne une couleur à la musique de la même manière que la musique donne une couleur au texte. Donc nous, il faut se libérer des partitions, il faut jouer par cœur, il faut apprendre à jouer loin les uns des autres, il faut apprendre beaucoup de choses qui fait que le spectacle devient un spectacle total.
Un concert total et parfois même totalement en dehors des clous du classique. De quoi se distinguer sur les scènes de France et à l'étranger, à en croire leur ingénieur du son, Victor Page.
Ils sont super curieux et ils ont envie de faire plein de choses. De faire du jazz, effectivement, du hip-hop... avec des danseurs, avec là des comédiennes, de la scénographie. Après, est-ce qu'ils ont plus de dates comme ça? Oui, sûrement, mais je pense que le calcul de base, c'est que voilà, ils sont curieux, quoi.
Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'avenir de la musique classique. Je crois que le concert est quelque chose de merveilleux, de magnifique et qui sera toujours irremplaçable. Mais je crois que c'est l'avenir de la musique classique pour un certain type de salle, un certain type de public. Et puis aussi, pour nous, en tant qu'artistes, c'est un enrichissement extraordinaire. Et donc, je suppose que cet enrichissement qui est de mélanger une mise en scène, rencontrer des acteurs, des danseurs, et se poser des questionnements de transversalité des arts, quelque chose d'important aussi pour le public.
Une passion pour le mélange des genres et des arts qui n'est pas sans rappeler les habitudes de Debussy lui-même, qui travaillait régulièrement avec des peintres, des poètes et des écrivains pour lui aussi croiser les univers.
Un reportage signé Clément Buzalka et Antigone in Molenbeek, mise en scène par Guy Cassirs avec le Quatuor Debussy. C'est jusqu'au 14 novembre à l'AMC 93 à Bobigny dans le cadre du festival d'automne. Les Debussy qui aiment aussi exhumer des pages peu connues comme ici, celle de ce compositeur né dans les Pyrénées au 19e siècle, c'est Charles Danclas. La musique de Charles Danclas, menuet du 8e Quatuor à cordes, était le Quatuor Debussy. Il est 8h19.
Yeah.
Courtisan, race, ville et damnée, chante Rigoletto à l'acte 2 de cet opéra de Verdi. C'était le grand, l'immense Ludovic Tézier sur son dernier album Verdi. Il est sorti en début d'année avec l'orchestre du théâtre communal de Bologne, dirigé par Frédéric Chasselin. Et Ludovic Tézier chante Rigoletto avec l'orchestre de l'opéra de Paris. C'est prodigieux. C'est à l'opéra Bastille à Paris dans cette mise en scène de Klaus Guth. C'est jusqu'au 24 novembre. France Musique, il est 8h24. L'heure de Max Dosholm. Bonjour Max.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un accompagnement musical qui a traversé les siècles.
Une formule toute simple que l'on nomme la basse d'Alberti.
Musique.
Domenico Alberti. Voilà un compositeur que l'on cite plus souvent dans les cours de solfège et d'analyse musicale que dans les programmes de disques et de concerts. Si l'on a injustement oublié sa musique, le nom Alberti en revanche est resté aussi connu que celui de ses exacts contemporains, à savoir Bach, Handel, Scarlatti et consorts. Pourquoi ? Car il aurait, dit-on, inventé un motif musical qui faisait un tabac au XVIIIe siècle. Des accords brisés, répétitifs, que l'on nomme la basse d'Alberti et que l'on trouve par exemple dans cette œuvre à la main gauche. Un accompagnement simplissime qui laisse beaucoup de place à la mélodie. Dans cette sonate, Alberti décompose des accords. Au lieu de les plaquer et de jouer toutes les notes d'un coup, il égrène les notes sous la forme d'un arpège qui se referme sur lui-même, comme une boucle. En réalité, il n'est pas du tout sûr qu'Alberti ait inventé cette basse qui porte son nom. Mais le nom de basse d'Alberti n'est pas volé, car l'Italien a énormément utilisé cette formule musicale dans ses œuvres pour clavier. Un accompagnement qu'il n'était pas le seul à apprécier, puisqu'on le retrouve également dans la sonate Facile de Mozart, mais aussi joué par un violon, comme en témoigne la sonate Le Printemps de Ludwig van Beethoven. Si la basse d'Alberti est un symbole de la musique classique, c'est-à-dire du style galant du XVIIIe siècle, cette formule n'a jamais vraiment disparu et a même bénéficié d'un regain d'intérêt au XXe siècle. Dans des œuvres comme la sonate pour flûte de Poulenc ou encore au basson dans cet extrait de la symphonie classique de Prokofiev, la basse d'Alberti est un ingrédient du style néoclassique. Alors que chez Prokofiev, cet accompagnement presque comique du basson est un clin d'œil aux symphonies classiques de Mozart et Haydn, certains compositeurs lui ont donné une valeur intemporelle. Avec Philip Glass et ses métamorphosis d'un minimalisme radical, la basse d'Alberti prend du galon. Chez Glass, elle n'est plus seulement une formule d'accompagnement qui permet à une mélodie de se déployer, elle est devenue la mélodie même. Un bel exemple d'émancipation musicale.
Phil Glass, Métamorphosis numéro 4, interprété par le compositeur lui-même. Un voyage dans le temps au fil des notes de la basse d'Alberti, maxi classique, Max de Zolm. Une chronique que vous retrouvez sur francemusique.fr. La musique de Phil Glass, interprétée par Phil Glass. Rodolphe Bruno-Boulmier est avec nous dans une demi-heure avec Émilie Munera. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste, on va écouter le dernier disque du trio Zadig, des amis d'enfance qui se sont réunis autour de ce trio et qui nous propose un disque Saint-Saëns. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de Saint-Saëns cette année anniversaire, mais celui-ci est très beau parce qu'il nous montre deux facettes de Saint-Saëns, le romantique avec sa virtuosité et puis l'homme de science qui a travaillé sur les partitions de Rameau, et donc il y a quelques très beaux arrangements de Rameau et c'est un coup de cœur, et donc on va écouter ça pendant l'émission.
Rendez-vous dans une demi-heure avec Émilie Munera en piste. À tout à l'heure,
Rodolphe. À tout à l'heure.
Merci d'écouter France Musique, il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est une longue journée qu'attend Anne Gastinel. Ce soir, salle Cortot à Paris, aux côtés de Claire Désert au piano pour un concert où elles vont jouer des extraits, entre autres, de leur nouveau disque, il est consacré à Frédéric Chopin. Il vient de paraître chez Naïve. Et ce matin, la violoncelliste est dans le studio de France Musique. Bonjour Anne Gastinel.
Bonjour.
Après quasiment 30 ans de carrière, comment on aborde une journée qui s'achève?
Faut pas dire des choses pareilles.
Comment? Alors, on dit pas.
Non.
On coupe.
Surtout pas.
Alors, je recommence. Comment vous abordez une journée qui s'achève par un concert?
Plutôt avec enthousiasme, parce que voilà, par les temps qui courent, je crois qu'on a retrouvé, un peu tous le plaisir peut-être encore accru de du concert, des retrouvailles avec le public. Donc moi je suis ravie, je suis très contente.
Le trac est toujours là ou l'a-t-il été d'ailleurs?
Alors il est toujours là, mais très franchement, moi je sens une petite différence quand même avec avant. Je me sens quand même beaucoup plus... Le plaisir l'emporte, on va dire, plus facilement dans ce qui précède le concert. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le plaisir était toujours là au moment du concert. Et là, il est même avant. Je me sens pas particulièrement stressée. Moins qu'avant, en tout cas.
Donc depuis cette période sans concert,
oui,
comme s'il y avait un plaisir supplémentaire.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme si on était un peu revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire le plaisir effectivement d'être sur scène et de partager la musique avec d'autres. Donc oui, je sens une très nette différence.
La prof Anne Gastinel, qui enseigne le violoncelle au CNSM de Lyon, est-ce que cette dimension-là du concert à préparer, du stress à gérer, est-ce que vous l'enseignez aux élèves ou est-ce que c'est quelque chose qui est une dimension que les étudiants apprennent au conservatoire supérieur?
J'en parle beaucoup avec eux, oui, c'est-à-dire je les mets aussi assez souvent en situation de stress, c'est-à-dire j'organise des classes collectives avec tous les copains qui écoutent et puis il faut commenter ce genre de choses, donc ils sont à la fois très très anxieux ces jours-là et en même temps ils sont en demande maintenant parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement le stress ça s'apprivoise, on apprend à gérer son stress et oui, c'est une chose que j'intègre régulièrement dans le travail. Ce dont je leur parle beaucoup aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est sur l'exigence absolue au moment du travail, c'est-à-dire on ne se passe rien et on essaye de, entre guillemets, d'atteindre la perfection, en tout cas on pousse l'exigence à l'extrême, et par contre une certaine forme de bienveillance au moment du jeu. C'est-à-dire que souvent ils ont un petit peu tendance à inverser la chose, ils laissent un peu passer des choses dans le travail, et puis au moment où ils jouent, alors là ils deviennent terribles avec eux-mêmes, et moi j'essaie de leur faire comprendre que c'est plus le moment. C'est-à-dire au moment du jeu, si on a été suffisamment exigeant dans son travail, on n'a plus besoin d'aller s'auto-flageller quand on joue. Voilà, donc j'insiste beaucoup sur cette inversion des priorités.
La leçon d'Anne Gastinel à 8h33. Pas de stress, pas de trac. Anne Gastinel est bien sur France Musique. Frédéric Chopin au programme de ce nouveau disque. La grande sonate pour violoncelle et piano, on l'écoutera tout à l'heure. Mais le disque s'ouvre avec ceci.
Thank you.
Une pochette en blanc et noir avec Anne Gastinel et Claire Désert dos à dos. Ces nouveaux disques Chopin, Anne Gastinel est notre invitée ce matin. Et ce disque s'ouvre et se referme avec deux nocturnes, celui-ci, l'opus 9 numéro 2 qui ouvre le disque, mais dans un arrangement pour violoncelle et piano. Ce n'est pas la version originale. Anne Gastinel, pourquoi avoir choisi d'ouvrir et d'enfermer ce disque avec ces arrangements?
Moi, je trouve que c'était un petit peu aussi comme une introduction, voilà, au disque. J'avoue que j'ai d'abord un faible pour le piano et puis pour toute cette littérature, et j'ai toujours eu pas une petite frustration, mais quand même, pas pouvoir jouer ces pièces-là, hormis de temps en temps quand ça me prend et que je me mets au piano. Mais voilà, je trouvais que c'était aussi une sorte de joli clin d'œil aussi au reste du répertoire qui est dans le disque. C'est-à-dire que, voilà, je pense que Chopin a très peu écrit finalement pour d'autres instruments que pour le piano. Et notamment, on voit dans sa sonate, on se rend compte là quand même qu'il y a une vraie attention portée au violoncelle et pas seulement au piano. Et puis ça m'amusait du coup de un peu en regard à ça, de carrément inverser un peu les rôles et de rendre le violoncelle presque plus important, on va dire, que le piano, parce que c'est vrai que là on lui vole un peu
mais
tout.
Vous
hein.
voulez le chant, elle l'a bien pris, Claire Désert.
Elle l'a très bien pris parce que d'abord elle était assez conquise, je pense, par l'arrangement que je trouve
celui-ci,
moi,
c'est
vraiment
de
génial.
David Popper.
Ça, c'est Popper, je trouve que l'arrangement est fantastique. Et puis voilà, Claire a suffisamment peu d'ego pour prendre ça très bien, et même si finalement dans ses nocturnes elle est finalement que dans l'accompagnement. Voilà, elle a aussi ce chic et cette générosité d'être aussi investie, même quand elle a que quelques notes à jouer. Donc elle chantait en même temps que moi.
Vous venez de dire que donc c'était un chant à deux voix. Vous avez dit que Chopin, évidemment, est quasiment exclusivement écrit pour le piano. Pourquoi il choisit le violoncelle pour l'une de ces rares pages qui soit écrite pour un autre instrument? Est-ce qu'on sait?
Alors, je pense qu'il y a deux raisons pour ça. Bon, la première, il était quand même très ami avec...
C'est parce que c'est l'instrument le plus beau du monde, c'est ça ?
Évidemment. Alors ça, c'est la première raison. Celle-là, on n'a même pas besoin d'en parler. Non, mais il était très ami avec Francôme, avec Auguste Francôme, qui était donc un grand violoncelliste de l'époque. Et ils étaient très liés. Donc, ils n'ont pas joué tant que ça ensemble, mais voilà, cette sonate lui est dédiée. Donc, je pense que c'est avant tout une histoire d'amitié. Et puis, je pense que voilà, Chopin était un immense mélodiste, et assez naturellement, le violoncelle dans ces cas-là est un petit peu l'instrument auquel on pense. Quand on pense mélodie, on pense assez vite violoncelle. Donc je pense que c'est la deuxième raison aussi.
Et dans cette sonate, on découvre un autre Chopin, une écriture différente de l'écriture pour le piano, ici, dans cette sonate pour violoncelle et piano, Anne Gastinel.
Alors, on a vraiment l'écriture typique de Chopin pour le piano, c'est-à-dire qu'on a quand même une partie qui est très, à la fois très lyrique et très virtuose, hein. Les pianistes ont fort à faire quand même dans cette sonate, mais il utilise aussi le violoncelle dans cette optique-là, c'est-à-dire que le violoncelle a une grande part mélodique, il chante beaucoup, mais il est aussi très véloce, notamment dans le premier mouvement, dans le second aussi. Alors après, dans ce fameux largo dans le troisième mouvement, là c'est le violoncelle dans toute sa splendeur.
On écoutera la toute fin si vous êtes sage.
Auditrice,
sage. Auditeur, pas
ah
vous.
Bon
non, si on a le temps, mais
voilà,
je pense qu'on l'écoutera là tout.
Donc il a effectivement, je crois, vraiment utilisé, il a essayé d'utiliser en tout cas plusieurs facettes du violoncelle, et il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Le violoncelle ne fait pas juste, entre guillemets, décoration mélodique dans cette pièce, et c'est ce qui en fait aussi sa force.
Il a eu du mal à écrire d'ailleurs pour à écrire cette sonate. Il a, me semble-t-il, un amour assez variable. Il l'a aimé, moins aimé. Vous le ressentez, ça ?
Oui, puis enfin bon, il a écrit ça quand même très très. C'est une œuvre très tardive, hein, donc il était aussi vraisemblablement bon. D'abord, il n'était pas très en forme, hein, au niveau de la santé. Puis il était forcément aussi un âge avec beaucoup de questionnements. Et je pense que c'est, voilà, quand on écrit à 20 ans, n'écrit pas tout à fait de la même manière à 35, puisque bon, il est mort quand même, le pauvre homme très jeune. Donc oui, je pense qu'il avait, d'une manière générale, de toute façon, plus d'état d'âme. Et puis, avec sûrement, ça, moi, je suis pas dans sa tête, évidemment, mais sûrement aussi, quand même, toujours cette envie de privilégier l'écriture pianistique, avec, en même temps, cette envie aussi d'approfondir un peu l'écriture pour violoncelle. Donc je pense que ça devait pas être si simple.
Le début du scherzo de cette sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, Anne Gastinel au violoncelle, Claire Désert au piano. Le disque vient de sortir chez Naïve, le concert c'est ce soir à Paris, salle Cortot, et puis beaucoup plus tard d'ailleurs, l'année prochaine en mars à Cahors et au festival de l'Epo en mai. Anne Gastinel, ça fait quoi, une vingtaine d'années que vous jouez ensemble, Claire Désert et vous?
Oui, ça fait à peu près une vingtaine d'années, donc c'est... Voilà, c'est toujours tellement à la fois une redécouverte, c'est-à-dire que chaque fois qu'on se retrouve en musique, voilà, je pense qu'on se redécouvre un peu l'une l'autre, et en même temps, je dirais pas qu'on se connaît par cœur, mais il y a évidemment une très belle amitié qui s'est nouée, qui s'est créée, et donc ça, voilà, j'espère, ou à la limite, peu importe, mais que ça se ressent dans notre jeu, c'est-à-dire qu'il y a... Moi, en tout cas, Claire, c'est quelqu'un que j'aime profondément et que je respecte beaucoup, qui a cette immense qualité d'intégrité, d'honnêteté, qui, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, qui n'a pas cet ego que peuvent avoir certains, ou en tout cas un ego démesuré parfois, et qui est vraiment là pour servir la musique en toute humilité. Et c'est quelque chose qui me touche, qui me parle et qu'on sent dans son jeu, évidemment.
Thank you.
vous parlez bien, très bien, depuis 8h30 au micro. Vous êtes professeur, Claire Désert aussi, quand vous travaillez toutes les deux. Ça passe beaucoup par les mots, la parole, vous, les deux grandes enseignantes, en plus d'être deux grandes musiciennes, ou pas?
Pas du tout, c'est exactement l'inverse, on parle très peu. Enfin, on parle beaucoup avant. On fait beaucoup de pauses où on là où on est très bavarde, mais par contre dans le travail, je pense honnêtement qu'on a de moins en moins besoin de parler. C'est devenu tellement naturel, je crois, le jeu ensemble, que voilà, on dit assez peu de choses, on joue, on est plus dans le plaisir du jeu que dans la parole.
Autre partenaire de jeu privilégié, Anne Gastinel, c'est David Grimal, le violoniste, Philippe Cassard, le pianiste. Vous avez sorti un merveilleux disque Beethoven l'an dernier, couronné par toute la presse. Et pareil avec eux, c'est le même fonctionnement, ou d'un partenaire à l'autre, ça peut être totalement différent?
Non, c'est assez différent, là, effectivement. Alors d'abord parce qu'on est trois protagonistes quand même, donc on n'est plus tout à fait dans la...
C'est moins simple de trouver le point d'équilibre?
Si, en fait, ça va tout seul. Mais par contre, ça parle beaucoup. Alors là, on parle beaucoup avant, pendant, après. Enfin, j'ai deux comparses aussi qui sont particulièrement volubiles et qui sont très drôles en plus. Je dois dire qu'alors là, on rit beaucoup, beaucoup. Voilà, David est peut-être quelqu'un qui a besoin dans notre trio le plus d'émettre des idées, de parler, voilà, parce qu'il tient pas en place dans sa tête, j'ai envie de dire. Donc il a besoin d'échanger, il a besoin d'exprimer beaucoup par la parole aussi. Mais voilà, c'est toujours moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est toujours dans le respect de l'autre. Ce ne sont toujours que des suggestions et pas, il y a rien qui est imposé, évidemment. Et c'est la base pour faire de la musique de chambre, c'est d'échanger avec l'autre, alors que ce soit par le verbe ou par les notes. Mais voilà, donc je dirais qu'avec eux, c'est très équilibré, la parole et la musique.
Il y a quelque chose d'évident, de naturel à jouer avec d'autres musiciens plus ou moins de sa génération, ou c'est un hasard, ou c'est juste les rencontres, la vie qui fait que...
Bon, alors, je ne veux pas être désobligeante, mais on n'est pas tout à fait de la même génération avec Philippe. On l'est par contre avec David.
Philippe Cassard, s'il nous écoute.
Pardon Philippe, mais il est très jeune évidemment, et comme nous tous. Mais non, c'est plus, voilà, c'est le hasard des rencontres. Moi d'ailleurs, je leur dis souvent... Au tout début de notre collaboration, pour moi, il y avait quelque chose de complètement incroyable, parce que on est tellement différents tous les trois. Pour moi, c'était improbable, notre association. Parce que je me suis dit, ça va partir dans tous les sens. Et j'avoue que c'était un peu le cas. Et c'est ce qui a créé quelque chose, je crois, avec beaucoup de modestie, hein, quelque chose d'assez unique, dans le sens, je pense qu'on a trois tempéraments quand même très forts. Et on est extrêmement différents, et je crois qu'on a réussi à créer quelque chose d'un peu particulier par la rencontre de ces caractères-là.
Et ben c'est pas eux qu'on va écouter avec
vous.
Voilà. Quand un violoncelliste croise un autre violoncelliste, que font-ils? Ils jouent Offenbach.
Thank you.
Extrait de ce duo pour deux violoncelles d'Offenbach, le violoncelliste avec deux violoncellistes, Xavier Philips et Anne Gastinel, notre invité, un disque paru il n'y a pas très longtemps chez la Dolce Volta. Question tarte à la crème, Anne Gastinel, cette école de violoncelle française, elle existe toujours, elle existe de plus en plus quand on voit tous ces jeunes violoncellistes qui arrivent sur le devant de la scène depuis quelques années.
Oui, oui, je voudrais juste dire, je suis vraiment contente que vous ayez diffusé un petit extrait de ce disque parce que je suis tellement contente de l'avoir fait avec Xavier. Voilà, on a passé un super, super moment ensemble et c'est quelqu'un que j'estime et que j'aime beaucoup. C'est ce qui est assez magique avec le violoncelle, effectivement, c'est une chose, on a l'impression qu'il se transmet comme ça de génération en génération. Il y a toujours, depuis très longtemps, on a des violoncellistes français qui sont extraordinaires, qui sont tous très différents les uns des autres. Et moi, je suis ravie de voir toute cette jeune génération là qui reprend le flambeau.
Il y en a pas trop.
Moi je trouve pas, parce que ce que je vous disais un peu hors micro.
Pour se faire de la place comme soliste, Victor Julien Affaire, Bruno Philippe, Camille Thomas, Christian Pierre Lamarca, Edgar Moreau.
Oui, après tout dépend ce qu'on veut. Je pense que c'est peut-être plus difficile pour eux, en tout cas, que pour nous. On est déjà un peu vieux, nous. C'est-à-dire qu'ils arrivent un peu tous ensemble, là, tous un peu de la même génération. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous quand même leurs particularités. Ils ont tous. Ils suivent pas tous la même voie, et du coup je pense que oui, il y a de la place pour tout le monde, et plus il y a de violoncelle, mieux c'est.
On va se quitter avec le chef-d'œuvre, le bijou de ce disque. Vous jouez ce soir Salle Cortot à Paris avec Claire Désert. C'est le Largo de cette sonate pour violoncelle et piano. Qu'est-ce qu'elle exprime en quelques mots pour vous, cette pièce-là?
C'est vraiment la simplicité absolue. Je pense que c'est pour ça que ce mouvement est si touchant, parce que la matière, elle est pure, il y a très peu de matière, et je crois qu'il faut juste la laisser chanter, s'exprimer sans trop d'affect.
Voilà, le Largo de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin. Anne Gastinel était notre invitée. Ce matin, elle était avec Claire Désert. Le disque vient de sortir et le concert, c'est ce soir, Salle Cortot à Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Demain, notre invité sera le pianiste Jean-Marc Luisada. Au générique de Musique Matin, il y avait Xavier Attaud, Antoine Giraud, Marion Guillemet, Marjolaine Portier-Kaltenbach, Flora Sternadel, Pierre Matillon, Yacine Mouzard. Et la réponse à notre jeu, il y a une heure, on écoutait la voix du grand Raymond DeVos.
À réécouter sur francemusique.fr.